Moi, je suis tout seul sur la scène, maintenant j'ai le droit d'enlever mon masque. En tout cas, je me l'accorde. En tout cas. Merci Zachary, et merci pour toute l'équipe, pour la musique. Merci aussi parce que, d'une certaine manière, ce que je vais dire va prolonger des réflexions qui ont déjà été entamées dans la première partie du culte sur la parole de Dieu, son importance dans nos vies. Alors c'est vrai que je la côtoie et je la parcours depuis un peu plus longtemps que Zachary, mais un peu moins longtemps que Mathusalem. Voilà, je suis quelque part entre les deux, hein, si vous voulez. Mais en tout cas, je pense que, voilà, il se trouve que dans ces dernières semaines, j'ai entamé la lecture des épîtres non pauliniennes, hein, donc à partir des épîtres aux Hébreux et puis la suite. Et donc, j'ai relu des textes là aussi, comme ça nous a été dit, et que j'ai lu sans doute des dizaines de fois. Et puis, voilà, la réflexion, et puis on grandit, on continue à penser à ce que Dieu fait dans nos vies, et ça peut interpeller. Et donc, ma prédication est centrée ce matin sur un chapitre que vous connaissez pour certains d'entre vous, enfin par cœur, non, peut-être pas tout, mais en tout cas des parties, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Alors, qui connaît ce texte? Qui sait comment on l'intitule en général? Les héros de la foi, voilà. Les héros de la foi. Et je ne sais pas qui, tout à l'heure, là, dans cette première partie du culte, a parlé de tous ces gens qui nous ont précédés et qui nous ont montré comment Dieu agit dans nos vies. Hein, c'est ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux qui commence « La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons » et on l'a chanté, que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et puis après, il y a « c'est par la foi » qu'Abel, et on va reprendre un petit peu ces exemples-là. Je vous inviterai à le lire vous-même à la maison, hein, c'est un peu long, donc on ne va pas le lire maintenant, jusqu'au début du chapitre 12, qui dit « nous donc aussi », puisque c'est en fait... La parole de Dieu nous concerne. Donc non seulement on raconte des belles histoires, mais pour nous aussi, et c'est ce que dit le chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et on va revenir sur leurs exemples, rejetons tout fardeau, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Entre les deux, il y a ce dont on va parler maintenant. Dans cette épître, l'épître dont on ne connaît pas bien l'auteur, est-ce que c'est Paul ? Enfin, il y a plusieurs hypothèses qui ne sont pas établies puisqu'elle n'est pas signée. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est Paul quand même, à cause un peu de la puissance de certains des raisonnements qui sont dedans, qui nous font penser à d'autres épîtres. Mais bon, c'est mon avis, c'est tout. Mais ça serait Paul qui n'aurait pas fini d'écrire son texte, quoi. C'est un peu un brouillon qui aurait besoin d'être repris. Quoi, mais bon, chacun peut avoir son opinion là-dessus. En tout cas, c'est un livre qui compare en permanence notre vie d'aujourd'hui et puis les prescriptions de l'Ancienne Alliance. Cette loi qui avait été donnée et qui préfigurait d'une certaine manière, ou qui en tout cas révélait, ou faisait partie de la révélation progressive de Dieu jusqu'à effectivement ce point culminant qui a été mentionné tout à l'heure, Jésus-Christ. Et morceau par morceau, chapitre après chapitre, l'auteur montre la supériorité en toute chose de Jésus-Christ sur la loi, sur le rôle des sacrificateurs, sur les sacrifices eux-mêmes, sur tout ça. Voilà, toute cette loi, elle est sublimée par Jésus-Christ. Et puis, à partir du chapitre 10, l'auteur se préoccupe des conséquences que ça peut avoir pour nous. Il ne s'agit pas seulement d'un livre, d'une étude littéraire, mais véritablement de savoir comment ça ne peut nous nourrir aujourd'hui. Ainsi donc, frères, chapitre 10, verset 19, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et un peu plus loin, n'abandonnez pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi. Et là, c'est une citation du livre du prophète Habacuc. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. Et voilà, simplement, je vous propose quelques réflexions. C'est quoi la foi? Nous disons que nous avons la foi, nous sommes ici parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Comment est-ce qu'un être humain est différent d'un autre parce qu'il a la foi? Hein, les protestants ont mis en avant le salut par la foi seule, sola fide, etc., etc. Et nous sommes dans cette lignée-là. Et c'est simplement, c'est quelques réflexions sur cette vérité que je vous propose ce matin. Alors quelques éléments de définition peut-être, avant de prendre les exemples qui sont dans le chapitre 11, dans cette galerie des héros de la foi, comme on le dit. Au chapitre, on l'a lu tout à l'heure, « Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, confessons notre espérance sans fléchir. » Le premier élément, c'est que cette foi qui m'anime, elle doit m'animer tout entier. Ce n'est pas seulement le cœur, et ce que je pense, ce n'est pas la tête. Hein, le cœur, à l'époque, c'était là où étaient toutes les pensées. Hein, c'était une vision un petit peu antique, en quelque sorte, de l'être humain. Mais il y a aussi le corps lavé d'une eau pure. Et je pense que voilà, notre foi, il ne faut pas que ça reste quelque chose qui existe le dimanche matin, entre 10h et midi. Mais c'est quelque chose qui va habiter toute notre vie, qui va habiter nos réflexions, qui va habiter notre façon de vivre dans le monde, notre façon d'être avec les gens que nous croyons. Pas seulement quand nous sommes dans un acte que l'on va qualifier de religieux, mais dans tous les actes de la vie. Notre foi, c'est quelque chose qui est en nous, totalement en nous, de la tête aux pieds, si j'ose dire, et qui en plus s'exprime, va se voir, va se dire. Et là encore, il y a de multiples façons de dire cela, mais confessons notre espérance sans fléchir. Alors parfois c'est par des paroles, parfois c'est aussi par une attitude, parfois c'est une façon d'être qui va être une façon de confesser notre foi, mais notre foi doit être quelque chose qui nous habite tout entier. Et l'apôtre Jacques, là j'ai fini les Hébreux, je suis dans Jacques, donc voilà, je vous en donne un petit bout. L'apôtre Jacques dit cela avec un peu de force qui nous étonne parfois quand il dit « la foi sans les œuvres est morte ». Ça ne veut pas dire que, alors c'est pas, on ne rentre pas dans la querelle de savoir si on est sauvé par la foi ou par les œuvres, ce n'est pas ça le sujet. C'est de dire que la foi que nous professons, celle que nous manifestons le dimanche matin en chantant tous ensemble, c'est quelque chose qui nous habite dans tout ce qui fait notre vie, de notre naissance à notre mort, et même si ça devait durer 969 ans, c'est ça que tu nous as dit tout à l'heure, Zacharie, en ce qui concerne Mathusalem. La foi sans les œuvres est morte, ça veut dire que notre foi, c'est quelque chose qui nous envahit entièrement à chaque instant de notre vie. Ce n'est pas toujours facile. Ça nous oblige parfois à avoir des positions qui vont nous rendre visibles, si j'ose dire, alors que des fois, on aime bien être juste invisible. Hein. Mais je pense que c'est une première leçon que nous tenons de ces textes. Et puis, au verset 35, on a lu « N'abandonnez pas votre assurance, vous avez besoin de persévérance. » Ça veut dire que ce n'est pas gagné. Ce n'est pas parce qu'un jour on s'est converti, on a confessé Jésus-Christ, que c'est gagné. Non seulement dans ce que nous pensons, croyons, parce qu'on évolue, hein, et puis on est soumis à tout un tas d'influences qui peuvent nous faire réfléchir, ou dans un bon sens, ou dans un mauvais sens d'ailleurs. Mais aussi notre foi et notre vie va être confrontée à la réalité de tous les jours. Et nous avons besoin de persévérance, de garder avec assurance ce que nous croyons. Vous savez, l'Évangile nous montre des gens comme vous et moi. L'apôtre Pierre, on l'aime bien, l'apôtre Pierre est un peu exubérant, un peu excessif peut-être, mais il a pu à la fois montrer une immense foi quand il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Voilà, ou quand il dit « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il était habité par une foi extraordinaire. Et puis, en même temps, on sait bien que, d'abord, des fois, il a dit des bêtises. Et puis, surtout, il y a eu un moment, il a craqué. Il n'a pas réussi à tenir face à ces gens qui disaient « Mais toi, tu étais un des disciples du Christ. » Non, je ne le connais pas. Vous connaissez le récit de cela. Mais Jésus lui-même l'avait prévenu, l'avait mis en garde dans Luc juste peu de temps avant Gethsémané, peu de temps avant la Passion, Jésus dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Et c'est là que Pierre dit « Mais j'irai avec toi en prison, même jusqu'à la mort. » Et quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, il n'arrivait pas à tenir. « Je ne lui jette pas la pierre à Pierre, c'est le cas de le dire. » Parce que, voilà, qu'aurions-nous fait à sa place? Comment nous serions-nous comportés? Mais juste, voilà, deuxième leçon, la foi, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, auquel il faut s'accrocher, qui a besoin de persévérance. Et puis, le début du chapitre 11, que j'ai lu tout à l'heure, la formule magique, si j'ose dire, la foi, et tout le monde, enfin, voilà, on la connaît par cœur, hein, on peut la dire ensemble, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une espèce de formule magique que l'on répète, mais est-ce qu'on prend bien conscience de ce que ça signifie? Une espèce de, comme on dit aujourd'hui, des oxymores, hein, qui associent des idées un peu contraires. L'assurance de ce qu'on espère. Alors soit on est assuré parce que ces questions tiennent bien, soit on espère et c'est quelque chose qui a besoin d'être montré. Et puis la preuve ou la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hein, on voit un petit peu ça. Ça oppose, cette formule oppose des contraires. Pour moi, ça veut dire que la foi, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas seulement notre intelligence, c'est pas seulement nos raisonnements, c'est pas seulement la façon dont je vis, c'est tout ça ensemble, y compris avec les contraires et les oppositions que cela impose. Ma vie est parfois pas tout à fait en règle avec ce que je dis va pas forcément, voilà, et tout ça, ça fait un être complet. Nous sommes des êtres complexes et c'est comme ça que Dieu nous aime. Mais de temps en temps, nous avons bien des sentiments de tiraillement, non? Enfin, je suppose que ça vous arrive aussi. Quand on a une décision à prendre, selon la position qu'on occupe, selon le rôle qu'on a à jouer, on a parfois des tiraillements et on se dit, mais voilà, est-ce que ce que je fais est conforme à ce que je dis? Est-ce que je dis là est conforme à ce que j'ai chanté dimanche matin? Voilà, des choses comme ça. Peut-être que non, ça vous arrive jamais, donc c'est qu'à moi. Non, d'accord. Voilà, je crois que ça fait partie de ces bases. Et puis, un peu plus loin, une autre leçon. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, qu'il récompense, c'est le rémunérateur. C'est celui qui paye le salaire à celui qui a travaillé. Ce n'est pas une récompense au sens « t'as été gentil, je te donne un bonbon » ou les cadeaux du Père Noël. C'est le Dieu qui va rendre, voilà, qui va... Comment on va dire, qui va répondre finalement, hein, le rémunérateur, celui qui paye le salaire, il ne fait que répondre et remplir le contrat, si j'ose dire, il ne fait que, je vais déguiser à cela, et voilà comment est Dieu, et nous devons croire cela. C'est sans doute ce qui fait un peu la différence avec d'autres croyances qui sont répandues dans le monde. Il y a quelqu'un vers qui nous devons aller, il faut croire celui qui s'approche de Dieu, donc il faut avoir envie de s'approcher de lui. Contrairement à peut-être des philosophies bouddhistes, le yoga ou des choses comme ça, où on s'avance vers un grand vide et on se libère de toutes nos pesanteurs et tout ce qui fait notre humanité qui est pas bonne. Alors que là, non, il s'agit d'aller vers quelqu'un. Alors quelqu'un, on met des guillemets, hein, parce que évidemment notre intelligence nous empêche de concevoir Dieu autrement que quelque chose qui nous ressemble un petit peu, parce que on ne sait pas imaginer plus grand que nous, on ne sait pas imaginer autre chose. Mais non seulement ce quelqu'un est à l'origine de tout, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Cette phrase est très forte, parce qu'évidemment elle sert parfois à certaines personnes pour s'opposer à des théories scientifiques, etc., etc. C'est pas le sujet, encore une fois. Que le Big Bang soit finalement la dernière théorie scientifique qui sera la plus valable, ou que ça ne nous demande pas d'être des créationnistes, ce texte-là, mais de nous dire que derrière tout ce qu'il y a là, nous croyons qu'il y a ce Dieu, et que ce Dieu, non seulement il est créateur, hein, il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, en tant que ultime explication de tout ce qui existe sur la Terre, mais qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il est en interaction avec nous, et qu'il est en contrat avec nous. Et c'est ce Dieu-là qui va me faire vivre. Et la plus grande réponse qui a été apportée, c'est en Jésus-Christ. Le début de l'Épître aux Hébreux, c'était « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces derniers jours. » Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toute chose par sa parole puissante. Voilà quelques idées de base. Donc la foi m'envahit tout entier. La foi, c'est quelque chose qu'il faut défendre, s'y accrocher, persévérer. La foi, ça englobe nos contradictions et nos fragilités d'être humain. Hein, mais ça doit rester l'assurance de ce qu'on espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas. Voilà, tout ça, c'est des contradictions, c'est des tensions qui existent en nous. Et puis la foi, ça veut dire aussi vouloir aller vers Dieu en croyant que lui-même vient vers nous en Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait. Et puis après, à l'appui de ces définitions, de ces formules, ces quelques règles de base, si j'ose dire, on trouve tous ces exemples des personnages de l'Ancien Testament comme des exemples de personnages de foi. Et je vais vous inviter à nous promener un peu dans ces histoires, hein, un petit peu comme Zacharie nous a invité à le faire ce matin déjà. Alors ça commence versets 4 et 5, on ne va pas tout lire, mais il y a d'abord Abel et puis Hénoch. Alors, bon, des exemples pour moi très surprenants déjà, ça, si j'ose dire, ça commence pas mal. J'avoue, hein, pourtant ça fait, comme je disais tout à l'heure, quelques années que je parcours la Bible, j'ai toujours pas bien compris pourquoi le sacrifice d'Abel a été jugé plus recevable que celui de Caïn. Alors des explications, hein, j'en connais plein, j'en ai lu plein, j'en ai entendu un certain nombre, etc. Mais rien dans le texte lui-même ne nous permet de trancher, de savoir pourquoi. Je dirais même que c'était Caïn, le frère aîné, qui a commencé et qui est le premier venu avec les fruits de son travail pour les offrir à Dieu. Et puis Abel a suivi, et il se trouve que Dieu a favorisé ça. Voilà. Alors, pourquoi, comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus valable et de plus grande valeur que celui de Caïn? Pour moi, ça reste du mystère. Et la foi contient sa part de mystère, y compris quand on a mon âge. Ça fait si longtemps qu'on parcourt la parole de Dieu. Et puis Hénoch, c'est pareil. Hénoch, tout ce qu'il nous est dit, il y a deux, trois versets dans la Genèse, hein, où il nous est dit qu'après la naissance de Mathusalem, justement, Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de son fils. Et puis, comme il avait marché avec Dieu, Dieu l'enleva, il ne fut plus. C'est très court, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Voilà, on le prend comme c'est. Mais il marcha avec Dieu. Comment faire, nous aussi, pour marcher avec Dieu? La foi aussi, c'est ça. C'est se poser la question, ça veut dire quoi, aujourd'hui, là, en 2021, dans nos circonstances, dans notre pays ou dans d'autres endroits du monde, c'est quoi marcher avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, je vais pas vous donner beaucoup de réponses, hein. Je vais vous poser quelques questions, vous garderez avec vous, et puis après, chacun cheminera. Et puis après, bon, après on continue la galerie des héros de la foi. Hein, donc, vous savez, je veux qu'on les reprenne un petit peu, parce qu'on a tendance des fois à lire ce texte d'un seul coup, comme ça, un peu comme on se balade dans un musée, quoi, on voit des toiles les unes après les autres, et on ne s'arrête pas sur chacun des tableaux, là, pour voir ce que ça dit. Et je pense que chacun nous dit quelque chose. Après, donc, à partir du verset 7, il y a Noé et Abraham. Bon, là, on est plus à l'aise. Là, ça va mieux quand même. Hein. La foi, Noé, la foi, Abraham, on commence à voir ce que ça veut dire. Dans un cas, il y en a un qui fait un geste de foi et qui véritablement construit une arche là où il n'y a pas d'eau. Il construit un bateau alors qu'il est en plein désert. Bon, là, c'est exactement la conviction, la démonstration de ce qu'on ne voit pas et l'assurance de ce qu'on espère. Hein, d'accord. Mais c'était pour avoir un témoignage prophétique, pour dire au monde qu'il s'était fourvoyé et que Dieu l'invitait à changer de vie. Et puis, Abraham, c'est pareil. Dieu l'appelle, lui dit, pars de ton pays et va dans un pays que je te montrerai. Et il part, comme sur cette parole-là. Donc là aussi, on se dit, ça, c'est vraiment un geste de foi. C'est la foi telle qu'on la comprend en général. Et puis d'ailleurs, la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et là, de nouveau, l'interrogation revient. En faisant quoi? De quelle manière? Pourquoi? Pourquoi sa vie était différente des autres? Pourquoi lui et sa famille avaient choisi une autre façon d'exister? Voilà, on ne sait pas tout ça. Quant à Abraham, quand Dieu lui annonce, une fois qu'il est arrivé dans ce pays, il est déjà assez âgé, il n'a pas d'enfant, et Dieu lui dit, tiens, regarde les étoiles, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et le texte de Genèse 15 nous dit qu'Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Voilà, Abraham a cru en Dieu. Et dans notre vie, est-ce qu'il n'y a pas des moments aussi où Dieu nous parle de façon plus particulière? Et à ce moment-là, il faut s'accrocher à cela. Et ça nous est compté à justice. Ce n'est pas pour nous enorgueillir, c'est pour dire que nous sommes dans le bon, dans la bonne direction. Savons-nous, nous aussi, dans nos vies, parfois nous jeter dans le vide, avancer parce que nous sommes convaincus que Dieu nous invite à aller dans telle ou telle direction, même si le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'assurance. Et encore une fois, c'est dans notre vie de tous les jours que cela peut se passer. Dans notre vie de tous les jours, nous avons des choix à faire, professionnels, sentimentaux, personnels, que sais-je. Et est-ce que notre foi en Dieu ne nous aide pas à vivre ces moments-là aussi ? C'est-à-dire si je dois changer de boulot ou je ne sais pas quoi, par exemple, il y a toujours un pas dans le vide. Si j'ai la foi en Dieu, est-ce que je crois vraiment qu'il m'accompagne, y compris dans ce moment-là, et dans le fait que je vais passer d'une situation que je connais à quelque chose de beaucoup plus incertain ? Est-ce que j'ai foi en Dieu pour être sûr qu'il me tient par la main si je la garde ? Est-ce que je crois que Dieu existe et qu'il répond à ma demande envers lui ? Voilà, je crois un petit peu ces gestes de la foi, comme Abraham, comme Noé, comme d'autres. Alors, Noé, il a un peu mal fini, vous connaissez la fin de l'histoire de Noé, il a un petit peu trop, il aimait un peu trop la bouteille, si j'ose dire. Mais en tout cas, Abraham, lui, par contre, apparemment, il est resté droit dans ses bottes, si j'ose dire, et droit dans sa foi jusqu'au bout. Comme quoi, même si on a une très grande foi, on n'est pas à l'abri. Et puis après, ça continue avec Sarah. Alors là, je suis un peu étonné, moi, parce que ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance. Bon, ça, c'est vrai. Il y a eu la naissance d'Isaac qui a fini par arriver, malgré, contre toute espérance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Alors, c'est là que je me dis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il oublie un petit peu quelques versets de la Genèse. Si vous vous souvenez, dans Genèse 18, quand les envoyés de Dieu viennent annoncer une nouvelle fois à Abraham que Sarah aura un enfant, je reviendrai l'année prochaine, voici Sarah ta femme aura un fils, c'est dans Genèse 18, et Sarah qui écoutait à l'entrée de la tente, c'était une discussion entre hommes, elle était sans doute en train de préparer le frishti, je pense que c'est un peu ça, et Sarah rit en elle-même en disant « Quoi, moi qui suis usée, j'aurai des enfants ?» Et l'Éternel dit à Abraham, mais pourquoi ta femme a ri, est-ce qu'elle ne me croit pas ? Je reviendrai l'année prochaine, elle aura un fils. Et en fait, Sarah, elle a douté. Si j'ose dire, ses doutes étaient un peu légitimes, compte tenu de la situation. Et quand nous avons des doutes, ne soyons pas catastrophés. C'est normal d'avoir des doutes. N'empêche que la promesse de Dieu, elle se réalisera. La promesse de Dieu, elle va aller à son terme. Alors, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir la carrure d'Abraham, d'Enoch, de Noé. La promesse de Dieu en réponse à ma foi, même si cette foi ne me porte pas suffisamment, ou pas tout le temps, ou que le doute de temps en temps vient, si ça ne m'empêche pas de fléchir, de me tromper. Mais la réponse de Dieu, elle dépend de la grâce de Dieu pour moi, qui me tient par la main et qui veut me soutenir. Et malgré les doutes de Sarah, malgré une grossesse qui a sans doute été pas facile, Isaac, vous savez ce que ça veut dire ? Le nom d'Isaac, c'est « il rit ». Donc ce rire qu'a eu Sarah parce qu'elle avait des doutes, il s'est prolongé, y compris dans le prénom qu'on a donné à Isaac, parce que elle a dû porter ça aussi. Elle le dit d'ailleurs, pendant ma grossesse, j'ai été la risée de tout le monde, si vous lisez dans la Genèse. Vous imaginez la situation, ça a dû faire jaser, comme on dit dans les gazettes. Et voilà, même si donc nous sommes comme ça fragilisés par ce que nous sommes, par notre vie, par nos circonstances, par nous-mêmes. Dieu se rit, en quelque sorte, de nos faiblesses. Dieu se rit de tout cela, et il va au-delà, et il accomplit sa promesse, malgré les circonstances. Si on continue à se balader, il faut que j'accélère un peu, parce que sinon, vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas faim, bon sang. Parce que c'est un peu long, Après, il y a, si j'ose dire, un des passages, pour moi, les plus difficiles de l'Ancien Testament, et j'avoue, sur lequel, là aussi, je sèche malgré le nombre d'explications, d'interprétations que j'ai lues. C'est ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac. Si vous avez une clé là-dessus, je suis preneur. Parce que c'est compliqué à entendre. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, qui était son fils unique, et il l'offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Alors, cette demande-là, est-ce qu'elle ne vous heurte pas? Ça me choque. Cruauté, épreuve, inconséquence même par rapport... Alors, d'une part, par rapport aux promesses qui avaient été faites à Abraham, et puis par rapport aux nombreuses fois dans la Bible où on voit que on critique les peuples alentours païens qui, eux, pratiquaient le meurtre des enfants sacrificiels, etc., etc. Et ils sont repris quantité de fois dans la Bible. Alors moi, je ne comprends pas cela. Voilà. Il restera des choses que j'aurais besoin de demander au grand patron plus tard, si j'ose dire. Mais ce que dit ce texte, en tout cas la façon dont l'Épître aux Hébreux utilise cet épisode, c'est pour nous dire que Dieu répond. Ça concerne Abraham. Est-ce qu'il a vraiment cru que Dieu lui demandait de sacrifier son fils? Je ne sais pas. J'ai du mal à le comprendre, à le croire. Quoi qu'il en soit, et dans une période de brouillard total, il a continué à avancer. Il a continué à avancer parce que, comme nous dit le texte, il comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est en tout cas ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Voilà. Et parfois, on est dans le brouillard total dans nos vies. Ça arrive. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des décisions, on ne sait pas où il faut aller. Est-ce que nous sommes capables de dire, quoi qu'il arrive, j'avance, parce que Dieu va m'éclairer. Il va finir par allumer la lumière et les choses vont être plus claires. Il a avancé jusqu'au moment où il a compris, ou peut-être qu'il a compris d'ailleurs qu'il avait mal compris, et que c'était autre chose qu'attendait Dieu. Quoi qu'il en soit, Dieu a pourvu. Il a pourvu par ce fameux bélier qui était accroché les cornes dans un buisson, et qui a pu finalement prendre la place, si j'ose dire, pour néanmoins adorer Dieu et pour consacrer sa vie à l'Éternel. Alors parfois on a l'impression d'être dans une spirale sans fin, c'est des fois difficile. Il y a certains psaumes, juste le début du psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Je crie le jour, tu ne réponds pas, la nuit, je ne garde pas le silence. Et pourtant, dit le psalmiste dans la suite, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et puis à la fin du psaume, tu m'as répondu et je publierai ton nom parmi mes frères. » Voilà, cet exemple du sacrifice, ce qu'on appelle le sacrifice d'Abraham, nous montre aussi ça. La fermeté dans des moments qui sont extrêmement difficiles à vivre. Mais vous savez, il y a un verset qu'on a appris par cœur il y a bien bien longtemps, c'est que Dieu ne nous tentera pas au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il amènera aussi la solution pour que vous puissiez y résister. 1 Corinthiens 10, verset 13. Et sachons aussi nous accrocher à ces paroles-là. Dans toutes les circonstances, Dieu est présent et il nous donnera ce dont nous avons besoin. C'est des fois difficile d'attendre, c'est des fois difficile de voir que le changement est l'œuvre de Dieu qui nous accompagne, et c'est pourtant ce à quoi nous sommes invités. Après, il y a quelques versets un peu étonnants. Isaac bénit Jacob et Ésaü. Jacob bénit les fils de Joseph. Joseph donna des ordres pour ses ossements, pour qu'on remonte ses ossements. Si on vous avait demandé de résumer la vie d'Isaac, Jacob, Ésaü et Joseph, vous auriez peut-être trouvé d'autres exemples où la foi était mise en évidence. Des exemples un peu plus parlants, plutôt que simplement leur testament, si j'ose dire, puisque c'est ça. Alors qu'est-ce que ça nous dit, cela? Pour moi, ça nous parle de la transmission de la foi. La foi, c'est quelque chose que nous avons, nous. Mais si nous la confessons, c'est aussi pour qu'elle se répande, pour que d'autres puissent la voir. Nous avons des enfants, des petits-enfants, où nous côtoyons des gens autour de nous. De quelle manière notre attitude de foi, notre vie dans la foi, va être un témoignage qui va permettre de se transmettre? Vous savez, Jésus posait la question à un moment, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et je pense que là, notre responsabilité est engagée. Et si Isaac a préparé les choses pour ses fils, si Jacob a préparé les choses pour ses fils, si Joseph a voulu que l'histoire se continue et que donc on revienne dans le pays qui avait été promis à Abraham, c'est une façon de nous montrer que notre rôle, c'est aussi de propager cette vérité-là. C'est de croire que ce que nous considérons comme important pour nous sera important aussi pour la génération suivante. Alors, voilà, tout en vivant dans notre époque, tout en vivant dans notre siècle et en ne sachant pas de quoi demain est fait. Mais voilà ce que ça me dit, moi, en tout cas, quand je regarde ce tableau dans la galerie de la foi, là, où on les voit tous qui font leur testament en donnant des belles paroles à leurs enfants. Pour moi, ça me dit ça. Ça me dit la permanence de la foi qui passe par nous, qui passe par nos attitudes, par nos paroles, par nos églises, par un certain nombre de choses que nous voulons porter, non pas juste pour nous faire plaisir, mais parce que nous avons un message à transmettre, et que ce message, il doit inonder l'humanité entière, celle d'aujourd'hui, comme celle d'hier, et celle de demain également. Et puis après, on continue avec Moïse. Bon, là aussi, c'est un peu plus facile, hein, Moïse, grand personnage, qui a effectivement s'est engagé dans un combat qui était plus que compliqué, et d'une certaine manière, il a permis au peuple de sortir d'Égypte. Alors bon, là, la façon dont c'est traduit dans ce chapitre, hein, c'est un peu emphatique. Hein. Faut pas oublier que Moïse s'est quand même enfui honteusement, accusé de meurtre, pourchassé par la police du pharaon. Mais enfin, voilà, c'est. Hein, et quand on nous dit qu'il n'a pas eu peur du roi, etc., bon, c'est une façon de dire les choses. Hein. Mais il croyait certainement que Dieu allait envoyer son salut. Il était lui aussi possédé par cette image d'un Dieu qui va répondre, puisqu'on s'est approché de lui. Dieu va être le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Et comme il s'était approché pour demander, comme le peuple avait fait monter ses prières vers Dieu, Dieu allait répondre. Et Moïse était pénétré de ces pensées-là. Alors après, bon, dans l'histoire, il y a des événements comme un peu certains que j'ai cités avant qui nous étonnent un peu. Hein. Tous les soldats de l'Égypte noyés dans la mer. Et puis après, dans la conquête du pays de Canaan, il y a des choses qui nous paraissent étonnantes hein, par rapport à notre compréhension de ce qu'est la bonté de Dieu et de ce qu'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Hein, quand les murailles de Jéricho tombent et qu'il faut passer au fil de l'épée tout le monde, hommes, femmes et enfants, bon, ça nous interpelle un petit peu et il faut prendre un peu de recul par rapport à ces idées-là. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que Dieu guide son peuple et que ses promesses s'accomplissent. Et je crois que tout ce que l'Ancien Testament veut nous dire, avec des histoires peut-être qui sont un peu imagées ou un peu transformées, peu importe, on raconte l'histoire en fonction d'un message qu'on veut passer. Et le message fondamental, c'est que Dieu est à l'œuvre, qu'il tient toutes choses dans ses mains et que ses promesses vont s'accomplir. Et combien de fois elles se sont accomplies pour nous déjà? Savons-nous les compter? Savons-nous regarder en arrière et nous dire qu'effectivement Dieu nous a conduits dans telle circonstance, à tel moment, dans tel événement, individuellement, collectivement, peu importe. Vous savez, quand on chante « Compte les bienfaits de Dieu hein, », c'est vraiment ça que ça veut dire, c'est être capable de nous souvenir. Oui, Dieu nous a protégés dans telle circonstance, il nous a accompagnés dans telle circonstance, il a accompli ses promesses au travers de circonstances que j'aurais peut-être pas choisies et que j'aurais préféré différentes. Après, Moïse et toutes les aventures du peuple dans la mer Rouge, etc. On a Rahab. Alors ça aussi, c'est étonnant qu'elle fasse partie de la galerie des héros de la foi. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Là aussi, des fois, les auteurs des textes sacrés nous étonnent quand même. Rahab, une prostituée, qui vivait dans les remparts de la ville, donc je pense que ça devait être quand même le bas-fond des bas-fonds, hein, c'était pas des luxueuses demeures avec du velours partout, hein, c'était beaucoup plus sordide que ça. Effrayée au plus haut point de l'avancée, qu'on ne peut pas arrêter des armées d'Israël qui détruisent tout sur leur passage, qui fait un deal avec les espions, si vous me protégez, moi, etc., ben, que je vous fais sortir. Qui ment effrontément à ses compatriotes, quand ils lui disent « on a vu là, ils sont là ». Non, non, ils sont partis par là-bas, allez-y, cherchez pendant qu'elle les fait fuir d'un autre côté. Voilà, ça aussi, ça vous, moi, je sais pas, ça, c'est toujours étonnant, il faut se dire « mais il y a un message plus loin que ça ». Où est la foi? En quoi est-ce que c'était un acte de foi? Nous, on lit ça plutôt comme un acte de trouille et de protection toute simple. Et en fait, il y a juste, je dirais, un verset dans Josué, dans ce récit du début de Josué, où elle dit, Rahab, nous l'avons appris, le cœur nous a manqué, chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux là-haut et sur terre, ici-bas. Pourquoi, comment, dans cette femme qui était sans doute une femme simple, tout ça est devenu une vérité tellement forte qu'elle a risqué sa vie pour prendre des décisions plus qu'étonnantes. Peut-être que parfois on a besoin nous aussi d'avoir la foi du charbonnier, de simplement dire, voilà, c'est la seule chose que je sais, c'est que Dieu est Dieu et que moi, je suis tout petit et je ne comprends rien. Et j'avance comme ça. Hein, c'est ce que j'appelle la foi du charbonnier, une foi qui est simple, qui sait simplement, voilà, je ne peux rien dire d'autre que j'ai besoin d'une protection. Dieu protège-moi, viens à mon aide. Ce qu'elle a fait un petit peu, Vous savez, en ce moment, hein, ça fait quand même un an et demi qu'on vit dans des circonstances plus que bizarres avec ce fameux coronavirus. Et des gens en sont très effrayés de façon permanente. Et on voit les réactions au fur et à mesure que la vague numéro 1, puis 2, puis 3, puis 4, je ne sais plus combien on en est aujourd'hui. Hein, et puis les variants, et ceci, et cela. Et on est comme si on avait des vagues successives qui voulaient nous envahir. Et un peu comme les armées d'Israël, accrochons-nous au fait que dans tout ça, Dieu nous accompagne. Je ne sais pas comment, et on se dit, mais pourquoi ? Oui, on a plein de pourquoi dans notre vie, puisque notre intelligence est limitée. Mais est-ce que nous savons aussi dire, voilà, la seule chose que je sais, c'est dans tout ce fatras d'informations, c'est que Dieu est Dieu en haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Et à ça, je m'accroche, et avec ça, je vais avancer. Et puis voilà, le chapitre 11 se termine par toute une série, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes, qui par la foi ont fait des tas de choses extraordinaires. Vous lirez la fin de ce chapitre. Alors, ils ont tous fait des choses extraordinaires, mais si on regarde bien, ils ont tous failli d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont jamais été parfaits. Gédéon, il a fait des choses extraordinaires, mais à la fin de sa vie, il a un petit peu cédé au culte de la personnalité, si j'ose dire. Hein. Il était une statue, il était content que tout le monde vienne l'adorer. Barak, il a défendu, mais effectivement, il n'a pas cru qu'il pouvait y aller tout seul. Il n'a pas cru en la parole de Dieu. Il a eu besoin de se faire accompagner par Déborah, une autre prophétesse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Samson, c'est l'histoire avec les femmes, ça a toujours été compliqué, si j'ose dire, hein, jusqu'à ce qu'il se fasse définitivement avoir. Mais c'est ça, en fait. Hein, c'est un petit peu, on voit bien que toutes ces personnes, comme nous, sont pénétrées de contraire et qu'il faut arriver à juguler Jephthé. Alors, Jephthé, on ne le connaît pas trop, mais enfin, il a quand même fait une promesse idiote qu'il a obligé à sacrifier sa propre fille, hein, puisqu'il a, voilà, il était tellement victorieux. Devant tout le monde, il fait une grande promesse. La première personne qui sortira de chez moi quand je rentre du combat victorieux, je la sacrifierai en l'honneur de l'Éternel. Chose qui était interdite, encore une fois, qui était contraire, mais c'était un petit peu son ego là qui était incontrôlable. Manque de chance, c'est sa fille qui sort pour venir le féliciter. Et il a accompli sa promesse. Donc voilà, tous ces gens-là, ils ont fait des choses. David, bon, on connaît bien, David, il a quand même fait tuer Uri pour lui piquer sa femme. Voilà, c'est dit un terme un peu cru, mais c'était ça. Donc tous ces gens-là ne sont pas parfaits, et pourtant ils sont considérés comme des modèles de foi, et ils sont cités là-dedans, comme chacun d'entre nous pourrait y être, non pas parce qu'on est au-dessus des autres, non pas parce qu'on a une vie qui est plus droite, meilleure, etc., mais parce qu'on veut dire qu'on s'accroche à cette parole et que l'on s'accroche à ce que Dieu veut faire pour nous. Alors voilà, je vais arrêter pour en dire des tas de choses. Hein. Vous avez compris, ce chapitre, il est, j'allais presque dire inépuisable, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Mais quelques idées pour résumer. Dieu attend de nous que nous lui fassions confiance pour toute notre vie, tout ce qu'elle comporte, non seulement là-dedans, non seulement là, mais dans notre être tout entier et ce que ça comporte d'inclusion dans notre vie, dans notre époque. Et que notre vie soit porteuse de tout cela pour que ça soit visible et que le témoignage puisse se perpétuer aujourd'hui, demain et dans les générations futures. Voilà ce que nous sommes invités à faire. Nous ne sommes pas parfaits, pas plus que ces personnages qu'on a cités là. Et ça aussi, ça fait partie de notre foi, de croire que parfois le doute nous assaille et que même quand le doute nous assaille, il y a quelqu'un qui veut nous aider à aller au-delà, à traverser cette épreuve, à passer plus loin parce que Dieu nous accompagne. Parce que Dieu continue à le faire. Et donc, ce verset que je citais tout à l'heure, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et il y a ceux du chapitre 11 des Hébreux, et puis tous ceux que nous connaissons les uns et les autres, dans notre vie, dont nous avons lu l'histoire, hein, ça ne s'arrête pas à Jephthé ou à je ne sais pas qui, à Barak, etc. Ça continue. Et nous avons tous en tête des personnages qui nous ont marqués par une circonstance, un moment où ils ont montré que c'était pas seulement un engagement humain, mais ça allait au-delà de cela. Alors, nous ne sommes pas plus parfaits que cela, et ça fait partie de notre foi. Nous avons des doutes, mais la grâce de Dieu surpassera toujours nos manquements. Et donc, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, notre vie, en quelque sorte, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et je termine juste avec quelques pensées sur la foi. Quand ma foi se fait discours, Seigneur, souffle-moi que parler avec toi compte plus que de parler de toi. Quand ma foi se fige en certitude, montre-moi qu'il est vain de dresser des échelles sur lesquelles on ne monte pas soi-même. quand ma foi reste accrochée au passé, éveille-moi à la beauté nouvelle de chaque jour, héritage mais aussi promesse. Quand ma foi est rivée au ciel, conduis-moi à Jésus qui a connu la pesanteur de la terre et nous a visités à hauteur d'homme. Quand ma foi chancelle sous les assauts du doute et que le vase se révèle d'argile, fais-moi sentir ta main de potier qui inlassablement poursuit en moi son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, et c'est vrai, on nous l'a rappelé ce matin, aujourd'hui ta parole est accessible à tout le monde de tant de manières différentes et gratuitement, et on vit une époque de ce côté-là qui est extraordinaire. Que nous puissions inlassablement la parcourir, nous en nourrir, nous en imprégner, non pas pour imiter ce qu'il y a dedans, non pas comme une machine à réponse, mais parce qu'elle nous enseigne qu'effectivement, inlassablement, tu accompagnes l'homme sur la terre et tu veux le meilleur pour lui, tu veux le meilleur pour nous. Nous avons tous des chemins compliqués, peut-être des moments difficiles à passer, mais tu es là, que nous puissions vraiment nous accrocher et nous dire que, voilà, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Nous le croyons, Seigneur, nous le disons fréquemment, et qu'il va répondre à cette inclination que nous allons avoir et ce mouvement que nous allons avoir vers toi. Garde chacun d'entre nous, garde tous les membres de notre Église qui ne sont pas là. Tu connais les raisons, certains sont en vacances. Merci parce que tu nous accompagnes chacun et que pour tout le monde, tu veux nous aider à construire cette vie pour aujourd'hui et pour demain. Béni sois-tu. Amen.